Vous écoutez
RMC. Bienvenue, bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h. RMC, Apolline Matin. Le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec à la une, le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde.
Vainqueur 1-0 donc hier soir de la grande finale contre l'Argentine, des scènes de liesse toute la nuit, vous verrez chez les Espagnols les larmes de Lionel Messi côté argentin et des sifflets aussi pour Donald Trump, on va largement y revenir. On fera le point dans le journal sur l'incendie, toujours pas fixé ce matin dans le Var près de Draguignan, où 10 maisons ont brûlé hier après-midi. Et nous serons en direct du Tarn, où les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilar.
Toute la nuit, les Espagnols ont fait la fête.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Pour célébrer leur victoire 1-0 en finale donc de la Coupe du Monde contre l'Argentine avec un but en prolongation à la 106e minute précisément de l'attaquant Ferran Torres qui a fait plonger les Espagnols dans une nuit, permettez-moi, de fiesta à New York où se jouait cette finale et où vous êtes pour RMC, Valentin Jamin.
Oui, en sortant du stade, les milliers de supporters, drapeaux jaunes et rouges sur le dos, maillots sur les épaules et maquillage sur les joues, chantent soulagés.
C'est incroyable, on a été très supérieurs. L'équipe qui jouait a gagné.
Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. C'est un rêve unique de vivre ça.
Car l'Espagne a complètement dominé, tiré à 20 reprises quand l'Argentine n'avait pas frappé une seule fois à la fin des 90 minutes, du jamais vu. Et l'unique buteur du match se nomme Ferran Torres.
Ce but est celui de 47 millions de personnes. Il n'est ni le mien, ni celui des 26 joueurs qui composent cette équipe. Et le destin avait écrit que nous allons gagner loin de notre peuple. Mais nous avons fait tout notre possible pour que nos supporters se sentent le plus près possible de nous.
L'Espagne est championne du monde 2 ans après son sacre à l'Euro. Invaincue en compétition depuis 2023, elle domine le football mondial et son sélectionneur Luis de la Fuente est fier.
Je ressens avant tout une immense fierté, une fierté pour cette génération de footballeurs qui a grandi avec cette idée de jeu et qui lui est restée fidèle. Je suis fier d'avoir eu la chance de les accompagner tout au long de ce parcours. Cela a été un véritable honneur.
Et ils pourront célébrer ça lors de leur retour à Madrid aujourd'hui.
En effet, ils sont attendus à la mi-journée à Madrid, où la presse dit ce matin que les Espagnols sont, et je les cite, les rois de tous les temps. Alors ça tombe bien, ils sont reçus par le roi et le Premier ministre avant une parade en fin de journée dans les rues de la capitale. 1 million de personnes sont déjà annoncées. Et avec cette victoire, eh bien, ils rejoignent la France et l'Uruguay au classement des doubles vainqueurs.
Alors côté argentin, cette fois, c'est pas tout à fait la même ambiance.
À l'image de Lionel Messi, qui rêvait de réaliser le doublé, Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York où se jouait donc cette finale. Une des images de la soirée, ce sont les larmes de Lionel Messi.
Oui, pendant de longues minutes et alors que l'Espagne était en train de soulever sa 2e Coupe du Monde, juste derrière lui, Lionel Messi est resté figé, larmes aux yeux, visage rougi devant les 50 000 Argentins qui avaient pris place dans le virage du stade de New York, des chants à la gloire de l'idole argentine et des applaudissements nourris pour dire merci à l'ensemble de sa carrière en sélection. Malgré la défaite, cette image marque l'histoire du football et en quelques minutes, elle a fait le tour des médias du monde entier et des réseaux sociaux. À 39 ans, Lionel Messi n'a pas évoqué publiquement la suite de sa carrière internationale à l'issue du match. L'Argentin qui a offert le Mondial 2022 à son pays pourrait avoir un dernier hommage à la maison lors d'une prochaine trêve internationale. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme aux 8 ballons d'or a joué ce dimanche à New York son dernier match de Coupe du Monde.
Comme Lionel Messi n'a pas marqué, eh bien c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, meilleur buteur tout court de l'histoire d'ailleurs des Coupes du Monde. Et si cette finale s'est terminée aussi tard, vous savez, c'est parce qu'il y a eu prolongation, mais aussi le fameux concert de 27 minutes précisément à la mi-temps avec Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber notamment parmi les artistes et en présence de Donald Trump, sifflé par le public pour le seul match du Mondial auquel il a assisté.
Et on débriefe tous ensemble cette finale et plus globalement ce Mondial. Est-ce que les plus forts ont gagné? Je vous pose la question ce matin, 32-16. On vous attend aussi sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Il est 7h04 sur RMC et les pompiers luttent toujours contre le feu ce matin dans le Var.
200 hectares parcourus par les flammes depuis hier après-midi dans la région de Draguignan, précisément à Tarado, là où le feu a pris avant de se propager aux arcs, de traverser l'autoroute et de brûler aussi 10 maisons. Les nouvelles sont rassurantes ce matin, nous disent les pompiers au téléphone, mais le feu n'est pas fixé et 150 habitants ont dû être évacués, nous raconte Alexandre Thibault.
Depuis sa maison, Julie a vu les flammes et le panache de fumée très proche.
En 10 minutes, il fallait évacuer.
Et sa priorité, son cheval dans son jardin.
On a par chance un club de l'autre côté de la nationale qui accueille tous les chevaux qui ont besoin d'évacuer. Donc j'ai marché une heure pour aller mettre le cheval en sécurité.
Elle et son compagnon ont trouvé refuge chez des amis. Son compagnon qui redoute que sa maison soit détruite.
Moi je suis architecte, ma société est à domicile. Potentiellement, j'espère le bien familial et... toute la structure entrepreneuriale pour tout, c'est que c'est une de mes plus belles réalisations en tant qu'architecte.
Alerté par un ami, Pierre-Marie tente de se rendre dans la commune, mais sur le chemin, il se retrouve pris dans les flammes.
Les poumons ont pris un coup. Mon bras, il a brûlé. C'est moi qui ai failli prendre feu.
Légèrement blessé, il arrive sur place et découvre des maisons ravagées.
Oh, il n'y a plus rien ici.
Les toits sont calcinés, les jardins brûlés, les vitres explosées.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il n'y a plus rien. C'est un tas de cendres. Il y a des animaux qu'on n'a pas pu sauver. C'est les maisons de vos amis, c'est tout ce que vous construisez qui se m'a brûlé. Ça fait très mal au cœur.
Il a hébergé cette nuit plusieurs sinistrés qui ont dû évacuer.
Alors ces incendies interviennent et on en parle ce matin dans un contexte de sécheresse et en plein débat parlementaire aussi sur le projet de loi de l'urgence agricole qui sera de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui après l'accord de la semaine dernière entre députés et sénateurs prévoyant la réintroduction de 2 pesticides et des mesures aussi pour faciliter le stockage de l'eau. Alors ce projet provoque la division du bloc central. Une réunion est d'ailleurs prévue dans l'après-midi à Matignon. On voit bien, Grégoire Morelli pour RMC, qu'il y a de la crispation autour de ce texte.
Oui, les agriculteurs verront leur présence renforcée au sein des commissions locales de gestion de l'eau, certes moins que ce que voulaient les sénateurs, mais il n'empêche, le porte-parole de la Confédération paysanne, Stéphane Gallet, redoute une mainmise des agriculteurs sur la gestion de l'eau.
Ce texte, il veut renforcer la présence de la profession agricole en particulier pour prioriser l'usage. C'est ce contournement démocratique qui est plus que problématique.
Le texte prévoit aussi de doubler d'ici 2035 le volume d'eau stockée dans les bassines, ce qui va induire pour François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future, un déséquilibre dans le partage de la ressource entre les différents secteurs, l'industrie, le nucléaire, les loisirs et l'agriculture. Il craint une guerre de l'eau.
Cette eau captée dans des gigantesques bassines, c'est de l'eau qui n'ira pas alimenter les nappes phréatiques. Et donc, si on multiplie ce type d'initiative, on risque, dans certaines régions où les ressources sont tendues, d'avoir à terme une concurrence entre l'agriculture et la consommation humaine.
Dans sa dernière version, le texte maintient néanmoins la priorité accordée à l'eau potable et à la lutte contre les incendies.
Et on vous attend au 32-16 si vous-même vous êtes agriculteur. On va y revenir sur ce sujet du stockage de l'eau. La guerre de l'eau est-elle déclarée? On y reviendra après le journal. Il est 7h08 et la confirmation est tombée hier après-midi. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubilard.
Retrouvés dans un champ à l'endroit où Cédric Jubilard avait dit avoir enterré le corps il y a presque 6 ans. Jean-Louis Forquès en direct de Camiac-les-Mines pour RMC où habitait le couple Jubilard. Vous nous dites qu'il y a une forme de soulagement chez les habitants.
Oui, effectivement, Quentin, soulagement des habitants, soulagement même s'il n'y avait vraiment pas de doute. Certains d'entre eux nous disent il faut tourner la page, il nous a menti, sous-entendu Cédric Jubilard, il nous a menti pendant des années. Pour autant, eh bien ce matin, on ne connaît pas encore vraiment les causes exactes de la mort de l'infirmière de Cagnac-les-Mines. Y a-t-il eu des violences et quel type de violence, par exemple? Pour y voir plus clair, des analyses complémentaires vont être demandées dans les prochains jours, les prochaines semaines. Une reconstitution également de la soirée de décembre 2020 ici à Cagnac est également envisagée, elle pourrait être programmée, ce qui fait dire, eh bien, à la défense de Cédric Jubilard qu'il faut reporter le procès en appel prévu à Toulouse le 21 septembre prochain. La balle est donc désormais dans le camp de la présidente des assises de cette cour d'appel.
Jean-Wilfried Forquès en direct donc ce matin pour RMC. Et puis c'était une journée pleine de rebondissements sur le Tour de France qui arrivait dans les Alpes au plateau de Solaison hier après-midi. C'est le Belge Remco Evenepoel qui a gagné devant le maillot jaune Tadej Pogacar. Quasiment une minute devant le Français Paul Sexas qui n'a pas pu suivre le trio de tête dans la dernière montée. Mais alors Romain Asselin, l'étape a surtout été marquée par l'abandon du Danois Jonas Vingegaard qui fait énormément réagir depuis hier après-midi.
Oui, le Tour du Danois a brutalement basculé à la sortie d'un rond-point piégeux, environ 20 km de l'arrivée. Marc Riff, directeur sportif de l'équipe Visma Lease the Bike.
Il y avait une moto devant le peloton et le pilote a un peu paniqué au moment de freiner. Il y a donc eu ce freinage brusque devant le groupe. C'est alors que Jonas a chuté, entraînant d'autres coureurs avec lui.
Depuis cet abandon, chacun se renvoie la balle. Le peloton arrivait trop vite dans la courbe, selon les organisateurs du Tour. Tadej Pogacar, lui, s'interroge sur le contrôle antidopage subi en pleine nuit par les deux premiers du général.
Lui, il a eu à 2h du matin. Je me suis demandé si ça avait pu jouer un rôle. Quand une nuit de sommeil est complètement perturbée, on est peut-être un peu moins lucide dans une descente. Et en un instant, tout votre tour peut basculer. Je ne dis pas que c'est la cause de sa chute, mais c'est peut-être un élément qui a aussi pu entrer en ligne de compte.
Remco Evenepoel, vainqueur hier au plateau de Solaison, nouveau dauphin de Pogacar, est d'accord avec le maillot jaune.
C'est un peu inhumain d'aller réveiller les coureurs à 2h du matin, 5h du matin. J'ai dit à Tadej, son équipe devait faire la même chose avec les contrôleurs, d'aller les réveiller à 2-3 heures la nuit. J'espère que c'est pas moi le malchanceux pour la nuit qui arrive maintenant.
Évacué dans une ambulance, Jonas Vingegaard sera opéré dans les prochains jours.
Et aujourd'hui, c'est repos sur le Tour de France avant de repartir demain au bord du lac Léman pour un contre-la-montre entre Evian et Thonon-les-Bains.
C'était Quentin Vinet pour le journal sur RMC, 7h11. Des messages, Victor, sur le WhatsApp RMC après cette finale, ça débriefe.
Ah oui, ça débriefe et ça revient sur le sacre de l'Espagne. Bruno nous dit, ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai, l'Espagne a été meilleure, la meilleure équipe de la compétition, peut-être pas les plus flamboyants, mais un jeu qui a réussi à avoir des résultats. On a Ludo qui nous dit, étant franco-espagnol, c'est vrai que j'étais un petit peu pour les deux pays hispaniques, avec un penchant pour l'équipe de France, mais pour ça, c'était déjà trop tard, mon cher Ludo. On a Loïc qui, lui, nous dit, quand j'ai su que c'était Donald Trump qui allait remettre la Coupe du Monde, j'ai tout de suite éteint la télé. Donald Trump qui nous a fait fuir Loïc de devant l'écran. Et puis Anto nous redit que c'est amplement mérité pour la Roja.
Voilà, racontez-nous votre soirée. Est-ce que c'est une victoire méritée de l'Espagne? On en débat au 32-16. On attend vos messages sur le WhatsApp RMC. C'est le 06 12 424 424, 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on en parlait dans le journal, la France est à sec, sécheresse exceptionnelle, historique, qui bat déjà les records de 1976 et de 2022. 99 départements concernés par la vigilance et 55 qui sont considérés comme étant déjà en crise. Nous ne sommes que le 20 juillet avec en toile de fond ce débat sur la loi d'urgence agricole et ce vote attendu ce soir. Cette loi d'urgence agricole qui envoie un signal terrifiant. C'est le parti pris d'Yves Tremblay, il est hydrologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier. Il est avec nous dans un instant et vous réagissez, vous débattez au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h15, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story en direct. Nous sommes le lundi 20 juillet et la sécheresse que nous traversons est déjà historique, pire que celle de 1976. C'est la quasi-totalité du territoire qui est en vigilance, 55 départements en état de crise. Bonjour Yves Tremblay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement. Tout cela dans un contexte, et on va y revenir, où le Parlement doit se prononcer ce soir sur une loi agricole qui concerne justement, notamment, la question du stockage de l'eau. D'abord, en quoi cette sécheresse est historique et où est-elle la plus inquiétante?
Alors, elle est historique à plusieurs niveaux. Déjà, il faut se rappeler qu'on a vécu trois épisodes de canicule successifs avec des valeurs exceptionnelles pour la saison et on a battu le record de température sur la France. Tout ça combiné à un relatif déficit des précipitations au printemps. On estime qu'on a reçu un peu moins de 30% de pluie. Moins 30% de pluie par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et ce qui veut dire que malgré les épisodes de fortes précipitations en début d'année sur la majeure partie du territoire, malgré ça, en 3-4 mois, on arrive à des seuils assez inquiétants en termes d'humidité du sol, en termes de niveau des cours d'eau, et ça à l'échelle quasiment de toute la France.
Près d'un tiers des cours d'eau sont sous les minima observés ces 20 dernières années. Il y a des images très impressionnantes de la Loire, notamment, qui est totalement à sec à certains endroits. Est-ce qu'on risque à un moment de manquer d'eau potable ?
Alors, oui et non. On peut risquer localement, par exemple, il faut imaginer des villages qui sont alimentés, par exemple, par un captage, par un puits, qui peuvent s'assécher dans un contexte comme ça de sécheresse. On a vu des scènes dans les médias de camions-citernes qui amenaient de l'eau, oui. Mais ça, c'est vraiment des choses assez locales. À grande échelle, en France, non, il n'y a pas de risque sur l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de tout le pays.
Mais localement, ça pourra arriver?
Oui, localement, on l'a vu dans certaines communes, par exemple, pas loin de chez moi, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude. Mais c'est des effets assez locaux.
On est prêt à... Est-ce qu'on a pris la mesure de ce qui est en train d'arriver? Est-ce que la France est préparée?
Alors, on dirait que non, puisque, alors, il faut rappeler que ces sécheresses, malheureusement, s'inscrivent dans le temps long. C'est vraiment une des conséquences connues et documentées du changement climatique, l'augmentation des gaz à effet de serre, l'augmentation des températures, donc beaucoup plus d'assèchement des sols. Et malheureusement, ce type d'épisode n'est pas du tout un accident isolé. On voit clairement une plus grande récurrence des sécheresses ces dernières décennies. Et malheureusement, tous les scénarios pointent vers une augmentation future importante.
Alors, on a souvent parlé des canalisations qui fuient. Hein. On perd beaucoup d'eau dans nos d'eau potable dans nos canalisations. Et puis, il y a une chose assez étonnante et qui est d'ailleurs très française, puisqu'à l'étranger, ça peut être parfois différent. On continue de mettre, en tout cas même d'imposer par la loi, le fait de mettre de l'eau potable dans nos chasses d'eau. Est-ce que on marche sur la tête sur ce point-là, par exemple? Est-ce que ça fait partie des choses qui, selon vous, il faudrait changer?
Alors, effectivement, ça, c'est des leviers qu'on connaît, hein, qu'on connaît depuis longtemps. On peut se poser la question pourquoi on n'avance pas plus vite là-dessus. Les pertes en eau, effectivement, on estime à 20%. Donc, 1 litre sur 5 qui est pompé, traité et distribué en France est perdu dans des tuyaux percés. Donc ça, c'est une marge de manœuvre très importante, récupérer 10 à 15% d'eau supplémentaire. Et la réutilisation, effectivement, on peut citer des pays pas loin de chez nous, hein, l'Espagne ou l'Italie, autour de 7, je crois, 10%, voire plus d'eau réutilisée, alors qu'en France, on est à 1%. Donc effectivement, ça, c'est des marges de manœuvre extrêmement intéressantes, déjà, pour envisager des solutions pour faire face à ces épisodes de sécheresse de plus en plus répétés.
Alors tout cela intervient, je le disais, au moment où le Parlement débat de cette loi d'urgence agricole, où l'un des points de tension est très exactement cette question de l'eau et cette question du stockage de l'eau, avec des agriculteurs qui réclament plus de liberté pour stocker l'eau, en disant finalement c'est du bon sens de stocker l'eau quand elle est abondante l'hiver, et elle a été, vous le disiez, abondante cet hiver, pour la conserver pour des périodes comme aujourd'hui où on est en période de sécheresse. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui est de dire c'est du bon sens, il y a de l'eau en hiver, on la garde pour l'été?
Alors, vous avez dit plus de liberté par les agriculteurs. En fait, il y a aussi surtout une volonté de diminuer les instances de concertation, hein, de se mettre autour de la table pour décider comment on gère l'eau. Ça, c'est une régression très importante. Effectivement, la question du stockage, on peut regretter qu'elle soit mise en tête de liste comme seule et unique solution d'adaptation. Or, le stockage, il n'est pas du tout possible partout, dans tous les contextes géologiques, par exemple entre le nord, le sud de la France, et bien même là, dans les zones où il y a des nappes phréatiques rapides ou des nappes lentes. Donc, il y a des contextes pour lesquels, par exemple, l'installation de bassines n'est pas du tout pertinent, ou même de barrages, ou même de retenues collinaires, qui sont des ouvrages beaucoup plus petits. Mais là aussi, il y a des contextes locaux qui peuvent ou pas permettre leur installation. Et effectivement, il faut insister sur un point dans la communauté scientifique. Toutes les recommandations qui ont été faites, c'est d'insister sur un mix de solutions à l'échelle des territoires. Alors, le stockage en fait partie. Il ne s'agit pas du tout d'être pour ou contre le stockage. Le stockage, dans certains cas, est tout à fait adapté. Ça fait des milliers d'années que les hommes stockent l'eau de différentes manières. Mais diriger ça comme première, seule et unique solution, c'est absurde. Et c'est ce qu'on appelle une solution de maladaptation, en fait. Ça ne tiendra pas en contexte changement climatique, notamment parce qu'on s'attend à une variabilité du climat beaucoup plus forte. Et là, on en a un exemple catastrophique. Des pluies exceptionnelles au printemps et une sécheresse exceptionnelle en début d'été.
Merci à vous, Yves Tremblay, directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement. On sera tout à l'heure avec un agriculteur. Vous nous écoutez, vous êtes vous-même agriculteur, viticulteur, bien sûr. Venez répondre à Yves Tremblay. Le débat continue sur RMC au 32-16. On vous attend aussi sur le WhatsApp RMC. Merci à vous. Il est 7h21 et dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et puis l'économie avec Manu Le Chypre et le bar qui vient de repasser cette nuit, hein, au-dessus des 90$.
Oui, et on va voir comment on peut s'en sortir sur les prix au carburant, et on va passer au banc d'essai. La proposition d'Éric Coquerel qui veut limiter les marges des raffineurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait intéressant pour nous?
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 sur RMC.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Manu Le Chypre. Et donc le baril qui est repassé au-dessus des 90$. Et dans ce contexte, Manu, le député LFI Éric Coquerel plaide pour un blocage des prix des carburants en jouant sur les marges des raffineurs. Il vise directement Total, qui est à la fois distributeur et raffineur.
Oui, le chiffre du jour, ça pourrait être ces 13 centimes que représentent aujourd'hui les marges de raffinage. Alors, Éric Coquerel, il a raison sur un point, hein, les marges des raffineurs se sont bien envolées depuis le début de la guerre dans le Golfe Persique. En janvier et février, elles étaient environ à 3 ou 4 centimes par litre. Elles sont aujourd'hui à plus donc de 13 centimes par litre. Alors, est-ce que s'attaquer à ces marges de raffinage aurait un impact pour nous sur les prix à la pompe? Bah, pas tant que ça, parce que regardez, les prix ont quand même flambé jusqu'à 40-50 centimes le litre pendant cette guerre. Bon, là, on jouerait sur 10 centimes. En plus, il faut bien voir que on aurait de marge en France que sur les carburants raffinés en France. Or, sur le gazole, on a la moitié de notre gazole qui est importé de l'étranger, donc fabriqué par des raffineurs sur lesquels il serait impossible de d'avoir un impact sur les marges. Et puis alors vous allez me dire, les carburants sans plomb, il y en a 90% à peu près qui est fabriqué en France, sauf qu'il y en a que la moitié qui est fait par Total Énergie. Et puis la réalité, c'est que sur le long terme, le raffinage, ça n'est pas une activité rentable.
Alors, sauf qu'en ce moment, ça l'est, rentable.
Alors, c'est vrai, mais c'est une activité qui est extrêmement volatile. Or, si vous voulez investir dans le raffinage, il vous faut quand même des perspectives assez stables. Et la réalité, c'est que sur le long terme, ce raffinage est une activité déficitaire. Il y avait 24 raffineries en France dans les années 70. Il n'y en a plus que 7. Et le paradoxe, c'est qu'on reproche à Total de payer peu ou pas d'impôts en France. Bah, la réalité, c'est que c'est parce que Total fait pas ou peu de profit en France, tout simplement parce que son activité principale en France, le raffinage, ne lui rapporte que très peu la plupart du temps.
Emmanuel Lechypre, vous restez avec nous parce qu'on parlera tout à l'heure d'un autre sujet éco. C'est le bilan un peu économique. On verra qui est le grand gagnant de la Coupe du Monde sur le plan économique.
Avant même le coup d'envoi hier soir.
Et on le savait, il n'y avait pas d'enjeu en finale. Allez, tout de suite à 7h25 sur RMC, RMC Story. C'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. On va parler vacances et tourisme.
Cocorico. Arthur, la France reste la première destination touristique au monde, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère du Tourisme.
Et oui, avec un record de fréquentation, en 2025, 102 millions de visiteurs internationaux se sont rendus en France, c'est-à-dire 2 millions de plus qu'en 2024. Et ils ont beaucoup dépensé, hein, puisque les recettes touristiques atteignent 77,5 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 9% en un an. Alors attention quand même, hein, nous sommes talonnés par l'Espagne, deuxième du classement, avec 97 millions de visiteurs.
Ça fait longtemps que la France attire le monde entier.
Ah bah oui, ça a commencé il y a plus de deux siècles. Et d'ailleurs, Mathieu, est-ce que vous savez d'où vient le mot « touriste » ?
Pas du tout.
Alors, d'ailleurs, c'est un anglicisme, hein, du mot anglais « touriste ». Mais avant ça, ça vient du grand tour. Grand tour, tour, touriste. Alors, qu'est-ce que c'est le grand tour ? Le grand tour, c'était une mode de la fin du XVIIIe siècle. Avant d'entrer dans l'âge adulte, les jeunes gens de bonne famille faisaient le tour des capitales européennes pour découvrir les arts et la culture de leurs voisins. C'était la naissance du tourisme moderne, si vous préférez, mais réservé aux riches. Et dans ce grand tour, Paris était l'étape la plus importante.
Ah, qui étaient les premiers touristes à venir chez nous ?
Alors, pour l'écrasante majorité, c'était des Anglais. Hein, et ils ne se contentaient pas de visiter les Anglais, puisqu'ils vont participer très concrètement au développement du tourisme. Et ça va commencer dans le sud de la France, au 19e siècle. Prenez la ville de Cannes. Au début des années 1830, un Anglais qui s'appelait Lord Burgham se rendait en Italie en passant par la France, sauf qu'il n'arrive pas à passer la frontière. Donc il décide de faire étape à côté, dans un petit village de pêcheurs, un peu paumé. Ce village, c'était Cannes. Et à l'époque, Cannes, c'était pas grand-chose.
Mais il va tomber amoureux de la ville.
Totalement amoureux, hein. Il est à tel point qu'il va se faire construire une villa. Cette villa, d'ailleurs, elle existe toujours à Cannes, hein. Et au fil des ans, il va y inviter tous ses copains aristocrates anglais. Petit à petit, Cannes devient donc the place to be des Anglais pour passer l'hiver, hein. Il faisait beau, chaud. Tout ça au bord de la mer, c'était donc l'idéal. Voilà comment cette ville est devenue une destination légendaire de la Riviera.
Alors, Paris doit aussi quelque chose à un Anglais ?
Absolument. Cet Anglais, c'est Thomas Cook. Et Thomas Cook, c'est l'inventeur des agences de voyage. Exactement. En 1855, Paris accueille l'exposition universelle. Thomas Cook en profite pour monter les premiers voyages organisés pour visiter cette exposition. Le succès est au rendez-vous. Mais il va faire encore plus fort, cet Anglais. En 1870, plusieurs monuments iconiques de Paris vont brûler pendant les affrontements de la Commune. Ni une ni deux, Thomas Cook organise des séjours pour visiter les ruines. Donc là, des milliers d'Anglais débarquent à Paris. Et le grand jeu, c'était de repartir avec une relique des incendies. Donc les Anglais prenaient une pierre, un petit débris et hop, retournaient en Angleterre. Ça va devenir un business florissant et faire de Paris l'attraction numéro un en Europe. Donc vous voyez, Mathieu, même quand elle est au plus bas, la France attire le monde entier.
Merci Arthur Chevalier.
Quand l'histoire éclaire notre actualité, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. Allez, dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, on part à New York, l'Espagne sacrée championne du monde hier soir face à l'Argentine. Deuxième étoile pour la Roja. On sera en direct avec Jean-Louis Tour qui nous a fait vivre ce match en direct et plus globalement qui nous a fait vivre tout ce mondial sur RMC. On fera le bilan de cette Coupe du Monde et on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC. Il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'Espagne championne du monde. Scène de liesse toute la nuit chez les Espagnols. Victoire 1-0 face à l'Argentine. Messi et ses partenaires en pleurs. L'incendie près de Draguignan, toujours pas fixé. Des centaines de pompiers toujours mobilisés. Près de 200 hectares brûlés. La France va-t-elle devenir le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux en moins de 15 ans ? Les parlementaires en débattent aujourd'hui.
L'Espagne décroche donc sa deuxième étoile.
Victoire cette nuit 1-0 après prolongation contre l'Argentine. Ferran Torres a libéré tout un peuple à la 106e minute de jeu. Scène de joie dans toute l'Espagne et également à Paris où des supporters espagnols se sont rassemblés à la plaine Saint-Denis près du Stade de France. Notre reporter Corentin Roland a vibré avec eux cette nuit.
Un but de la libération de l'attaquant Ferran Torres au bout de la nuit. Et la centaine de supporters espagnols rassemblés à Saint-Denis peut chanter sa fierté. L'Espagne est championne du monde face à l'Argentine. L'issue a eu raison de la voix de Didier, franco-espagnol, maillot de la Roja sur le dos.
Indescriptible parce que ça a été un match tendu, on a été aux prolongations. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable.
La victoire 1-0 face à l'Albi Céleste s'est dessinée tardivement, mais l'Espagne a aussi battu le Portugal, la Belgique ou la France avec un seul but encaissé dans le tournoi. Elle est aujourd'hui récompensée pour Julien et Laura.
On a produit du beau jeu, je trouve. Les Argentins n'ont pas existé.
On l'a mérité amplement. Franchement, on a dominé tout le match. T'étais obligé que la deuxième étoile elle vienne chez nous. Il n'y avait pas le choix.
Le nouveau symbole, justement, sur toutes les lèvres.
Deux étoiles ! Deux étoiles, monsieur ! Viva España !
Car l'Espagne rejoint la France avec deux Coupes du Monde à son palmarès, mais les supporters ne sont pas rassasiés et rêvent déjà d'une troisième étoile à domicile en 2030.
Autre ambiance côté argentin, ils n'ont pas réussi à conserver leur titre de champion du monde, quatrième finale de leur histoire perdue. Lionel Messi en larmes lors de la remise de la médaille d'argent et déception immense également pour le sélectionnaire Lionel Scaloni.
Nous sommes tristes de ne pas avoir pu remporter la Coupe du Monde. Un immense merci à tout le public, à tous ceux qui nous ont insufflé le peu d'énergie qui nous restait. Il faut leur rendre hommage. Maintenant, le match est terminé et il faut aller de l'avant. Donc merci, merci est le seul mot qui me vient à l'esprit et merci aussi au public. Vous souffrez sans doute autant que nous, mais ce sont aussi des moments qui permettent de renforcer tout un pays.
Le milieu de terrain espagnol, Rodri, a été élu meilleur joueur du tournoi. Kylian Mbappé termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts et meilleur buteur de l'histoire du mondial avec 22 réalisations devant Lionel Messi. L'autre image de la soirée, c'est l'omniprésence de Donald Trump, hué lors de son entrée sur la pelouse, puis un peu trop présent au moment de remettre le trophée.
Et Donald Trump qui était présent au stade, ce qui ne l'a pas empêché de lancer la riposte au Moyen-Orient.
De nouvelles frappes américaines cette nuit contre l'Iran, 9e nuit de suite, et Henri Arnaud, correspondant à Washington pour AMC. Donald Trump veut venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient, notamment un militaire tué hier en Irak.
Ce soldat a été tué lors d'une opération de neutralisation d'un drone attribué à l'Iran et abattu par les Américains. Mais au-delà de cet incident, c'est toute la confrontation entre Washington et Téhéran qui se durcit depuis plusieurs jours avec des frappes américaines et des menaces de riposte iranienne. Ce dimanche soir, Donald Trump a une nouvelle fois affiché sa fermeté, affirmant que l'Iran a été lourdement affaibli ces dernières heures à nouveau avec des frappes en hommage à ses militaires et ses soldats tués. Il a également laissé entendre que cette campagne militaire pourrait se poursuivre. Une nouvelle escalade qui pose désormais une question centrale. Après la mort de plusieurs militaires américains et la multiplication des frappes, jusqu'où Washington et Téhéran sont-ils prêts à aller ?
Il est 7h34 sur RMC et les pompiers luttent toujours contre les flammes dans le Var.
Un feu toujours actif ce matin entre les Arcs-sur-Argent et Tarado près de Draguignan. Mais la situation est favorable selon les pompiers. Près de 200 hectares ont brûlé, 10 maisons ravagées par les flammes, 150 personnes évacuées. État des lieux ce matin du lieutenant-colonel François Baretti, commandant des opérations de secours.
Ce sont 360 personnes qui ont œuvré toute la nuit, qui ont noyé, traité les lisières, traité les points chauds, les souches, aidé aussi la population à regagner les maisons sinistrées. La situation est devenue favorable dans notre lutte. Le feu n'est pas actuellement fixé, mais il est quand même maintenu dans son enveloppe. On a toujours un petit point un petit peu délicat sur un endroit qui est très inaccessible pour le personnel. Cet endroit va être travaillé ce matin par les tractopelles pour pouvoir tracer une piste et permettre aux engins de ceinturer vraiment l'entièreté du sinistre.
Autre conséquence de cet incendie, le réseau SNCF entre Marseille et Nice, fortement perturbé, des TGV et TER ont été annulés hier.
7h35, faut-il couper les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
C'est le débat qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la majorité numérique passe en commission mixte paritaire avant un vote décisif demain dans l'hémicycle. Si le texte est adopté, la France pourrait devenir le premier pays d'Europe à interdire l'accès à TikTok, Snapchat, Instagram aux adolescents de moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. Un texte qui divise, mais Bérangère Bouquillon, ses défenseurs, le juge urgent face au risque lié à l'exposition des jeunes aux écrans.
Oui, parce qu'il est prouvé que les réseaux sociaux sont mauvais pour la santé physique et psychique des adolescents. Et en premier lieu, le réseau chinois TikTok. Des adolescents y sacrifient leur sommeil et même quelquefois leur vie. Martine est la maman de Lilou qui s'est suicidée en 2023.
Elle avait 14 ans, ça faisait un mois qu'elle avait 14 ans.
Martine lui a offert un smartphone l'été de sa 6e. Elle autorise l'application TikTok l'année suivante.
Elle regarde des vidéos où je vois des gens qui sont en dépression et qui en parlent. Et il y a des filtres qui rendent ça glamour et il y a des petites musiques. Et je vois qu'elle enchaîne des vidéos comme ça.
Comment se scarifier ? Quand tu seras morte, tu seras libérée. Toutes ces vidéos ont été vues par Lilou. Martine a donc porté plainte pour abus de faiblesse contre TikTok.
S'il n'y avait pas eu TikTok, on aurait eu plus de chances de pouvoir la sauver. Ça a été avéré par l'enquête et par les vidéos qu'on a retrouvées, quoi.
La pédiatre Sylvie Dieuzica, membre du collectif Surexposition Écran, estime qu'il y a urgence à légiférer pour envoyer un signal fort à tous les parents.
Les messages sont brouillés. Un jour on dit « Ah, c'est dangereux », puis un jour on dit « Ah ben non, c'est pas si mal, il faut vivre avec notre temps ». Non, le produit est dangereux. Il est fait pour être addictif, il faut que l'État donne un message très fort.
La proposition de loi prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Tiens, venez nous raconter comment vous gérez cette question des réseaux sociaux avec vos proches, avec vos ados. Est-ce une bonne idée, cette majorité à 15 ans, limiter l'usage des réseaux sociaux au moins de 15 ans, l'interdire même, est-ce que c'est une bonne idée? On vous attend au 32-16.
Et Sébastien Lecornu convoque en urgence les présidents de groupe du Bloc Central à l'Assemblée en début d'après-midi à Matignon. Au menu des discussions, le projet de loi d'urgence agricole, texte qui réintroduit deux insecticides interdits en France. Les députés doivent le voter ce soir, les sénateurs demain. RMC, 7h37. Paul Sexas a souffert hier sur le Tour de France. Le Français a perdu son maillot blanc de meilleur jeune mais reste toujours en contact avec les favoris. C'est donc une bonne nouvelle pour lui.
C'était vraiment dur, c'est parti très loin. J'ai géré mon effort, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus à certains moments. J'ai été trop hésité, à la fin j'ai fini quand même fort. Ah, ça reste une bonne montée et je reste dans le coup général, donc ça va. J'ai réussi à rester solide pour l'instant, j'ai bien récupéré et voilà, j'espère que ce sera aussi bien sur la troisième semaine.
Evenepoel a remporté l'étape devant Pogacar et s'empare de la deuxième place. C'est sa première victoire sur la grande boucle. Jour de repos aujourd'hui.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Vichy aujourd'hui à 18h30.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 6, Maximilien, son outsider, et le 3.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 7h38 et on va retourner dans le Var en direct ce matin avec vous, William Vogel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole du SDIS 83, le service départemental d'incendie et de secours. Vous êtes sur le terrain du côté des Arcs sur Argent où 200 hectares ont brûlé depuis hier. On en est où ce matin? Est-ce que le feu progresse toujours?
Le feu n'a que progressé cette nuit. On a eu quelques reprises de feu qui sont normales sur un sinistre de cette taille. On a forcément des reprises qui peuvent survenir et c'est tout l'objectif de laisser des sapeurs-pompiers au plus proche du sinistre. Donc cette nuit, on avait plus de 600 sapeurs-pompiers qui étaient mobilisés, qui ont fait ce travail de pionnier, ce travail de fourmi. En parallèle, sur les secteurs inaccessibles, on a des bulldozers qui créent des pistes afin de permettre aux moyens plus conventionnels, donc nos camions de sapeurs-pompiers, d'intervenir au plus proche de ce brasier et ainsi pouvoir fixer cet incendie, on l'espère, très rapidement.
On sait qu'une dizaine de maisons ont déjà brûlé, une centaine de personnes a été évacuée hier soir. Est-ce que des zones habitées sont toujours menacées ce matin ?
Ce matin, nous n'avons plus de zones habitées menacées. Cependant, les lisières sont chaudes. Les températures ont été importantes toute la nuit, ne vont faire qu'augmenter avec le lever du jour. L'humidité va, elle, également baisser. Donc, on a ce fameux cocktail explosif qui sera renforcé avec le vent. Donc, c'est une journée à risque pour laquelle on va être le plus vigilant possible.
Journée à risque, ça veut dire que ce feu n'est toujours pas fixé. Vous avez espoir, malgré tout, d'y parvenir aujourd'hui?
C'est un des objectifs du commandant des opérations de secours, justement, de fixer ce feu dans la matinée.
Il y a eu un pompier légèrement blessé. Est-ce que le bilan a évolué?
Alors les conditions de lutte sont quand même relativement difficiles pour nos sapeurs-pompiers. Hein. Comme vous le voyez, il fait chaud pour tout le monde, notamment pour nos sapeurs-pompiers qui sont en plus en train de fournir des efforts conséquents. Donc par chance, le bilan n'a pas augmenté et on fait tout pour qu'il n'augmente pas de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on a des éléments déjà sur l'origine de cet incendie?
Alors sur l'origine de cet incendie, on a les services enquêteurs qui travaillent dessus. Donc nous, on est vraiment concentrés sur les opérations de lutte. Monsieur le préfet du Var organisera un point presse un peu plus tard dans la matinée, durant lequel peut-être il viendra sur cet élément.
Le trafic ferroviaire est toujours interrompu ce matin sur cette ligne qui relie Nice à Marseille?
Alors, totalement interrompu, non. Il y a des marches lentes qui sont organisées. Et donc, il y a un petit trafic qui a repris, mais pas dans son intégralité encore.
Trafic a repris, donc pas dans son intégralité, donc de façon plus lente et perturbée. Merci beaucoup, William Vogel, pour ce point en direct ce matin depuis le Var. Vous êtes le porte-parole du SDIS 83. Plus de 600 pompiers donc sur le terrain et à pied d'œuvre encore ce matin pour cette journée à risque avec beaucoup de chaleur et du vent dans le Var aujourd'hui. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va aller au 32-16, c'est Alexis qui est avec nous ce matin. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors cette finale de Coupe du Monde, vous l'avez regardée jusqu'au bout de la prolongation?
Non, j'ai dû me coucher avant la fin, j'espérais que ça se finisse en 90 minutes, mais ça a duré un peu plus que prévu.
Vous avez fait comme Victor, non, en fait. Hein. Vous avez pas tenu jusqu'au bout, wow, parce que le réveil sonnait tôt.
avec un petit qui se réveille à 5h, c'est un peu compliqué de tenir jusqu'à 1h du matin. Ouais.
Pour vous, c'est les plus forts ont gagné?
Oh, clairement. Clairement, les plus forts ont gagné. L'Argentine ne méritait même pas d'être en finale, vu le niveau qu'ils ont montré depuis le début de la Coupe du Monde. Pour moi, en tout cas. L'Espagne avait sa place en finale, mais c'était la seule équipe qui avait sa place en finale hier soir.
Donc pas de regret sur les Bleus. On a été battu par les champions du monde. C'est peut-être une consolation.
Ben moi j'avais aucun espoir pour l'équipe de France. Pour moi c'était plus des individualités qu'un collectif. Donc on sait très bien que des individualités dans une Coupe du Monde ça fonctionne pas, ça ne donnera jamais de résultat. Ils ont eu des équipes entre guillemets faciles à jouer jusqu'au quart de finale et qu'ils ont eu une vraie équipe de football en face. Il y avait plus rien quoi.
Alors il y a quand même une équipe qui a fait beaucoup parler, c'est l'Argentine, avec un style de jeu assez rugueux hier soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Messi finalement assez décevant?
Oh ben ça c'est pas surprenant. Messi il a maintenant 39 ans, il a été à son top niveau il y a 5-6 ans. Là maintenant c'est un peu plus compliqué. L'équipe d'Argentine ne joue pas que pour Messi non plus, ils essaient d'avoir un collectif, même s'ils ont un jeu plutôt physique à la sud-américaine en fait.
Il y a des messages
du Paraguay, mais un peu meilleur en collectif. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis un jeu à la sud-américaine, ça veut dire jouer des coudes et parfois faire des prises de judo. Hein. C'est quand même assez impressionnant sur le terrain hier soir. Des messages qui vont dans ce sens-là aussi, Victor.
Il y a beaucoup de messages qui pensent comme Alexis. Je vois Steph et Stéphane, pas la même personne, qui tous deux nous dit l'Argentine n'a pas voulu jouer. Elle a joué assez salement. Finalement, elle mérite un peu sa défaite. Et puis certains comme Michael nous disent c'est quand même la fin d'une époque, Lionel Messi au Mondial. Ça fait un petit quelque chose de le voir. Alors déjà en larmes, mais de savoir qu'on ne le verra plus.
Bon, on va revenir sur tout ça depuis New York, puisque Jean-Louis Tour est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Et merci d'avoir veillé tard à New York, puisqu'il est plus d'une heure du matin là-bas pour nous, après nous avoir fait vivre cette finale en direct et tout ce mondial avec toutes les équipes d'RMC Sport. On se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qu'on retient de cette finale? L'Espagne, championne du monde. L'Argentine, le dernier match de Messi, sans doute en Coupe du Monde. Et la suite aussi pour les Bleus avec Zidane qui arrive. On va pouvoir en dire un mot. Et on vous attend au 32-16. Vos messages, c'est sur le WhatsApp RMC. C'est 06 12 424 424. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup Alexis, à bientôt.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Viva España, la Coupe du Monde part donc à Madrid. L'Espagne règne sur le foot mondial. Elle s'est sortie du piège argentin pour aller conquérir cette deuxième étoile hier soir. 1-0 après les prolongations. Jean-Louis Tour est avec nous depuis New York. Salut Jean-Louis, rédacteur en chef foot RMC Sport. Jean-Louis qui nous a fait vivre ce mondial et cette finale en direct hier soir sur RMC. On va faire un petit bilan ensemble. Jean-Louis, si on regarde l'ensemble de la Coupe du Monde, est-ce que les plus forts ont gagné ?
Oui, les plus forts ont gagné. L'Espagne, c'était la meilleure équipe. On l'a vu au fur et à mesure de la compétition. Elle n'a pas forcément très bien commencé avec ce match contre le Cap-Vert 0-0. Mais ensuite, il y a une réelle montée en puissance. On l'a constaté, on était aux premières loges avec l'équipe de France pour voir la domination espagnole qui s'est poursuivie encore contre l'Argentine lors de cette finale. Parce que il n'y a pas eu photo hein, entre les deux, même si ça a mis du temps à se décanter. Il a fallu passer par la prolongation. Les Espagnols ont quand même affiché leur supériorité assez nettement.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe d'Argentine de Lionel Messi qu'on a vu hier soir apathique, incapable d'aller se procurer la moindre occasion devant le but?
Bon, déjà, ils ont été impuissants face justement à cette équipe d'Espagne qui est quand même une équipe très forte. Même nous, l'équipe de France, avec nos quatre attaquants dont on a beaucoup parlé, nos talents offensifs, on a mis 85 minutes à faire un tir cadré aux Espagnols. Donc il y a la difficulté de jouer contre cette équipe. Et puis malheureusement, l'Argentine est tombée dans la caricature de son football hier soir en se persuadant que la seule façon d'être champion du monde, c'était d'aller chercher une séance de tir au but et surtout de ne pas prendre de but contre cette équipe espagnole. Et du coup, ils ont poussé leur style de jeu à l'extrême, en truquant parfois, en allant chercher des fautes très souvent, et en offrant des images déplorables, comme à la fin du match où il y a eu une petite bagarre générale qui a éclaté.
Ouais, avec ce carton rouge aussi, cette équipe qui a fini à 10, et Messi qu'on n'a pas beaucoup vu. Justement, peut-être un mot de l'arbitrage. Il a beaucoup été question d'arbitrage dans les débats autour de cette Coupe du Monde. Si on fait le bilan, il y a vraiment quelque chose à redire?
Bon, il y a eu des erreurs d'arbitrage comme tout le temps dans le foot, mais là j'ai l'impression que dans les commentaires on est allé plus loin. Chaque match avait sa théorie du complot. Le complot le plus énorme, c'était de dire que on avait décidé que l'Argentine soit championne du monde parce que ça faisait une belle histoire que Messi gagne la Coupe du Monde une deuxième fois. La conclusion du match d'hier, c'est qu'il n'y avait pas de complot. Et quand il a fallu sortir le carton rouge pour Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, il a été sorti. Il y a eu le retour de la polémique lorsque le but espagnol a été refusé, mais il y a bien eu un contact juste avant qui explique l'annulation du but. Donc voilà, moi je pense que malheureusement ces matchs de compétition internationale provoquent beaucoup d'émotions chez tous les supporters, et la face sombre de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de théories du complot, et j'ai peur que malheureusement ça se reproduise sur les éditions suivantes.
Alors la France, disons un mot peut-être de la France pour terminer. Jean-Louis qui termine quatrième, on va pas revenir sur le match de samedi soir, la défaite face à l'Angleterre, et on va surtout oublier la première période. Non, il y a une déclaration de Didier Deschamps qui interroge ce week-end sur son départ. Il dit qu'il a pris cette décision non pas pour lui, mais parce qu'il y a, dit-il, un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à lui. Est-ce qu'on sait à quoi il fait référence ?
Oui, il y a plusieurs facteurs. Déjà les critiques qui viennent des médias. Donc ça, il a eu de plus en plus de mal à les digérer, ces critiques. Alors, elles existent depuis le début de son mandat. Hein. Et nous, sur RMC, on est quand même bien placés pour en parler, puisqu'on fait partie des médias qui critiquent Didier Deschamps depuis le début. Malgré les victoires, parfois, le style de jeu est pointé du doigt. Mais là, la différence, selon les infos qu'on a pu avoir, c'est aussi sa relation avec le président de la Fédé, Philippe Diallo, qui est une relation beaucoup moins fluide que ce qu'il avait auparavant avec Noël Le Graët. Et je pense que Deschamps a senti que face à ces différentes critiques, il n'était pas aussi soutenu que d'habitude, et ça lui a pas plu tout cela, sachant que Philippe Diallo attendait quand même le bon moment pour placer Zinedine Zidane comme successeur de Didier Deschamps, puisque c'est pas lui, Philippe Diallo, qui avait prolongé Didier Deschamps la dernière fois, c'était encore Noël Le Graët. Donc il y a eu ce petit climat de défiance entre deux qui peut expliquer les maux de Deschamps.
Justement, Zidane, c'est pour quand?
Alors à la fin du mois, normalement. Normalement, ce sera officialisé d'ici à la fin du mois pour un premier rassemblement en fin septembre, où là il y aura 3 semaines pour travailler. C'est une nouveauté du calendrier. Et a priori, il est en train de peaufiner son staff, de discuter avec la Fédé pour avoir les contours vraiment de ce qu'il va pouvoir faire comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça devrait être lui. Hein. On attend l'officialisation, bien sûr, pour être catégorique. Mais ça va être surtout une page qui se tourne aussi dans le fonctionnement global de la Fédé, que ce soit les gens qui travaillent au niveau du staff et même au niveau du médical, un peu partout. Zidane devrait faire un grand ménage.
Et on aura l'occasion d'y revenir puisque c'est imminent d'ici donc, la semaine prochaine, hein, d'ici à la fin de la semaine prochaine, d'ici la fin du mois. Merci beaucoup Jean-Louis Tour depuis New York ce matin. Merci d'avoir veillé au bout de la nuit pour nous et nous avoir fait vivre ce mondial avec toutes les équipes d'RMC Sport qui vous accompagnent aux États-Unis depuis maintenant un mois. On n'a rien raté de ce mondial sur RMC. Il est 7h51. Dans un instant, le portrait du jour, Victor Pourchet.
Et il y aura deux rois à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni, Charles III, oui. Et puis le roi du Nord qui devient Premier ministre.
Et puis votre nouveau rendez-vous de l'été sur RMC, on parcourt vos villes. 4 mois après les élections municipales, on est retourné voir les maires élus ou réélus aux dernières municipales. Quelles sont leurs premières décisions? Est-ce que le quotidien a vraiment changé? On est allé vérifier sur le terrain avec les reporters d'RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure du bonus, le bonus RMC. Avec vous, Charlène Villemer, et ce matin, on parle d'une dernière pour Florent Pagny.
Mais vous n'aurez pas la liberté de penser.
C'était hier soir, dernière d'une série de 20 concerts à l'Olympia, une performance, un moment suspendu quand on sait à quel point il revient de loin. Bientôt 3 ans hein, que son cancer du poumon l'a laissé tranquille, Florent Pagny. Et il a toujours du souffle, et il en faut pour enchaîner les chansons de ses 22 albums, mais aussi ses reprises. Comme celle-ci, celle de Caruso, qui a fait pleurer Marc Lavoine, présent hier soir. C'est ce que nous dit le Parisien. À la fin du concert, Florent Pagny prévient, pas de dédicace. J'ai un mot d'excuse des médecins, rigole-t-il. Sa tournée reprendra le 12 octobre prochain.
Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h54, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Aujourd'hui, on s'intéresse à celui qui va officiellement devenir le nouveau Premier ministre britannique.
Et son nom, c'est Andy Burnham, mais son surnom...
The King of the North!
Le roi du Nord, surnom inspiré de la série Game of Thrones et hérité de ses 10 dernières années en tant que maire du Grand Manchester. Un roi sans couronne, un roi sans faste, milieu de 50aine d'années, lunettes carrées sur le nez, plus souvent en t-shirt qu'en costume, fan de foot également que l'on peut croiser de temps en temps au stade d'Everton, club de Liverpool, sa ville natale. Andrew Burnham, c'est un homme de gauche, plus à gauche dit-on que Keir Starmer qui le remplace, un enfant du Labour, le parti travailliste. Sa première carte du parti, le fils d'ingénieur et de secrétaire médical l'apprend à seulement 15 ans. Un amour de jeunesse qui souvent l'a ignoré avant son élection le mois dernier à la tête du parti. 2 fois, il tente d'être patron du Labour, 2 échecs.
Et son programme ?
Construire des logements sociaux, réindustrialiser le pays, un socialisme pro-entreprise, explique-t-il. Mais sa vraie doctrine, c'est le manchesterisme. En gros, décentraliser à tout va. Fan de rock. Au passage, Burnham finit l'appel de Londres, la capitale qui rend du pouvoir à la province. C'est ça, le thème de campagne. Ça veut dire déprivatiser certains services publics comme le réseau d'eau, donner aux collectivités plus de poids pour le logement, les transports et l'éducation. Ça passe aussi par du symbole, comme quand il promet d'ouvrir une antenne du 10 Downing Street, non pas à Londres, mais je vous le donne en mille. À Manchester, pas question en revanche de toucher au Brexit. Il s'agirait de ne pas trop froisser les électeurs de son rival d'extrême droite, Nigel Farage. D'autant qu'Andy Burnham a demandé 10 ans pour réorganiser le pays. Sur les 10 dernières années, il y a eu 7 premiers ministres britanniques. Alors attention, pour le roi du Nord, l'hiver peut vite arriver.
Winter is coming. Le roi du Nord, Andy Burnham, qui sera donc nommé premier ministre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Merci Victor Pourchet. 7h56. Et tout de suite, votre nouveau rendez-vous. On parcourt vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
Nouveau rendez-vous tout l'été sur RMC. On va parcourir la France avec les reporters d'RMC. Nous sommes allés à la rencontre de vos élus, ceux qui ont été élus ou réélus maires au mois de mars, 4 mois après les élections municipales. On est retourné les voir pour suivre leur premier pas, leur première décision, leur première mesure concrète. Que change-t-il dans le quotidien des habitants? Direction Carcassonne ce matin, chez un maire qui fait beaucoup parler de lui. Il est d'ailleurs surnommé le Trump occitan, Christophe Barthez, le nouveau maire RN qui détonne avec son franc-parler, ex-député, ex-viticulteur. Il multiplie les provocations et les polémiques. Vous allez voir Sonia Gobry du service politique RMC. C'est vous qui êtes parti à Carcassonne et ce maire Christophe Barthez vous a accueilli dans sa mairie.
Quand je rentre dans le bureau, la première chose qui saute aux yeux, c'est la photo de Christophe Barthez et Marine Le Pen en train de se serrer dans les bras à la place du portrait du président Macron. C'est pourtant une tradition républicaine.
Comprenez que je préfère avoir ma patronne au-dessus de la tête que le président de la République.
Autre mesure symbolique, derrière la fenêtre, suspendu au balcon, le drapeau français, celui de la région Occitanie, et entre les deux, rien.
Le drapeau européen était au milieu et je l'ai retiré.
Christophe Barthez s'est filmé, il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.
Manière de faire un peu de buzz.
Et des buzz, il y en a eu d'autres ces trois derniers mois.
Allez, un peu de fraîcheur.
10 millions de vues pour cette vidéo dans laquelle le maire de Carcassonne, tuyau à la main, arrose des militants syndicaux venus manifester sous ses fenêtres. Il les traite de siphonnés.
Ils peuvent taper des pieds, ils ne me feront pas faiblir.
En conflit avec les syndicats, Christophe Barthez veut les expulser de la bourse du travail, un local municipal. Et là encore, la décision a été mise en scène. Sophie Trochet, secrétaire départementale de la CGT de l'Aude, raconte.
Il est sorti, nous a jeté des cartons avec du scotch en disant commencez à préparer vos cartons. Donc voilà tous les cartons. Et on en fera de jolis pancartons revendicatifs pour la prochaine fois qu'on ira manifester, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un respect de l'état de droit.
Et des libertés syndicales, parce que pour elle, le maire RN de Carcassonne envoie un signal très inquiétant.
La seule interdiction qu'il y a eu, c'était pendant le régime de Vichy sous Pétain. C'est la seule fois où les syndicats ont été interdits et où les locaux ont été repris.
Mais ce n'est pas ce qui fera reculer Christophe Barthez.
Il ne manifeste pas contre l'extrême droite, comme d'habitude, non, il manifeste contre le maire et contre la politique du maire, alors que ce même maire leur met des locaux gratuits à disposition. Ça ne peut pas durer.
Il a aussi stoppé l'achat de pubs et les partenariats culturels avec le groupe de presse local La Dépêche du Midi. Pas assez neutre, selon lui.
Ils écrivent ce qu'ils veulent. Je ne m'attaque pas à la liberté de la presse. Je pars du principe qu'on ne mord pas la main de celui qui vous nourrit.
Argument utilisé aussi pour couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme qui a attaqué son arrêté anti-mendicité. Toutes ces mesures et le style très cash du maire RN divisent les Carcassonnais. Certains applaudissent, d'autres, comme Christian, sont exaspérés.
Pour moi, ça reste le Front National. Ce n'est pas le RN, c'est le Front National. Ces gens-là sont un danger. Il n'y a qu'à le regarder pour comprendre ce que je vous dis.
À un an de la présidentielle, Christophe Barthez a conscience qu'il peut être gênant pour son parti.
Peut-être que j'y mets pas les formes que certains voudraient que j'y mette. Il y a certains de mes collègues, de mes amis qui passent sur les plateaux télé. Il va falloir qu'ils expliquent certaines mesures que je mets en place. Jusqu'à présent, Paris ne m'a rien dit. Ne m'a pas appelé pour me dire ralenti. J'ai eu Jordan Bardella il n'y a pas longtemps. Il va parler d'autre chose, mais pas de ça. J'ai compris qu'il fallait pas me le dire parce que ça ne marcherait pas.
Quant à son surnom de Trump occitan, il répond « Je l'accepte avec grand plaisir ».
Sonia Gobry à Carcassonne pour RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.